Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée, Simon, Luc et Solveig, pour m'avoir encouragé à proposer quelque chose aujourd'hui. Ce que je vais vous proposer, donc chez Narcisse Cinéma du Diable, ou la construction d'une salle punk, c'est un travail qui est en cours, un petit peu comme Laurent hein, ce matin. Donc ce sont vraiment les tout premiers résultats. Je ne sais même pas si on peut parler de résultats. Donc c'est l'idée de vous présenter la construction d'une salle punk. Tout d'abord, pour dire un petit peu d'où je parle, je suis sociologue, je suis maître de conférence en STAPS et mes travaux de recherche portent sur tout ce qui est loisirs alternatifs, par exemple le Quidditch, la reconstitution historique, etc. Et il se trouve que j'ai aussi un intérêt particulier pour la scène punk personnelle. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu la convergence entre mes thèmes de recherche sur les loisirs alternatifs, mon intérêt personnel pour la musique et la NRPIN, donc, qui me permet aujourd'hui de vous présenter la recherche en cours. Donc, au départ, j'avais une certitude, c'est que chez Narcisse, c'est une salle que je fréquente un petit peu, et pour moi, c'était une salle punk. Donc, on est en territoire vosgien, on est dans un petit village perdu au milieu des Vosges, et je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une monographie, donc avec une démarche ethnographique. Et chez Narcisse, ce n'est pas une salle parmi d'autres parce qu'elle a une histoire particulière. Et les groupes qui la connaissent en font souvent la promotion comme étant une salle chaude ou chaleureuse, voire comme ayant le public le plus chaud de France. En témoigne d'ailleurs l'introduction que Lofofara a fait dans son concert live qui a été enregistré au Val d'Ajol, donc en octobre 2015. Ah, le Val d'Ajol, commune vosgienne de 4000 habitants, réputée pour sa foire aux andouilles, son concours du cri de cochon, et pour ce lieu aujourd'hui devenu mythique chez Narcisse. Proclamé par nos soins meilleur public du monde, on tenait absolument à immortaliser un de nos concerts ici, avec les Ajolais et tous les narcissiens d'adoption. Donc moi je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait punk finalement dans cette salle? Pourquoi cette image aujourd'hui d'une petite salle en milieu rural comme une salle chaude et punk? Et donc j'ai commencé les entretiens, les observations participantes. Et ce qui m'a frappé d'entrée, c'est que dans les discours, les propriétaires actuels, les bénévoles, ne parlent pas forcément d'une salle punk. Ils ne le disent pas forcément comme ça et ils ne parlent pas non plus forcément de « do it yourself ». Par contre, c'est des choses qui sont mises en action et c'est ce que je voudrais vous présenter un petit peu aujourd'hui. Alors, parallèlement à ça, pour avoir un cadre un petit peu théorique, j'ai pris la notion de monde, qui est une notion que je travaille aussi pour les loisirs alternatifs, et je me suis posé la question, donc, est-ce qu'on n'est pas chez Narcisse dans un emboîtement des mondes, donc un monde social au sens de Baker, hein, donc monde de l'art, est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir des acteurs qui coopèrent ensemble pour produire une culture alternative? Donc ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, est-ce qu'on n'est pas aussi dans ce que Goffman appelle des rencontres situées et donc la création d'un monde pendant un temps ponctuel. Par exemple, un monde du jeu. Quand on joue à un jeu, on crée un monde, que ce soit le jeu de rôle, par exemple. Et donc, j'avais aussi cette question-là. Et ce qui m'interroge, c'est finalement comment s'effectue la construction d'une scène narcissienne, donc avec une vraie identité liée à la salle. Qu'est-ce qui fait que cette salle est particulière aujourd'hui, donc dans les Vosges? Et finalement, comment s'exprime le do-it-yourself dans les pratiques de la salle? Alors, c'est vraiment l'idée de réfléchir à un ethos punk du do-it-yourself donc, tel qu'il se manifeste chez Narcisse et réfléchir à finalement comment cet ethos punk du do-it-yourself permet de construire une salle alternative. Alors, tout d'abord, un rapide historique au départ. Donc, l'histoire commence en 1933. Narcisse reprend l'entreprise familiale qui avait trois volets. Donc chez Narcisse, au départ, c'est une maréchalerie, un bistrot et des pompes funèbres, dont le slogan « On ne vous oublie pas » témoigne déjà d'une certaine forme d'humour familial. Il y avait aussi « On vous accompagne jusqu'au bout ». Voilà. En 1938, à la demande de sa femme qui souhaitait s'investir professionnellement mais pas dans le bistrot, qui était donc amatrice de cinéma, Narcisse fait construire dans son jardin une salle de cinéma. Et donc il y a à présent deux cinémas au Val d'Ajol, celui de chez Narcisse et celui du curé du village. Donc ça, vous voyez un petit peu déjà ce qui se dessine, hein. Et en 1942, Narcisse décide de programmer le film Lucrèce Borgia. Et l'affiche, à cette époque, présentait un évêque avec une soutane tachée de sang et, en même temps sur l'affiche, une femme avec un décolleté assez prononcé, donc pour l'époque 1942. Il se trouve que cette affiche est rapidement arrachée par le curé du village qui, à la fin de la messe, brandit l'affiche et s'exclame « Chez Narcisse, cinéma du diable ». Évidemment, parce que ça faisait concurrence à son propre cinéma. Hein, et en ajoutant qu'il ne faut pas aller chez Narcisse puisque, regardez, chez Narcisse programme des films pornographiques. Donc la légende est restée hein, que chez Narcisse, il y a eu des films pornographiques. Alors, ce n'était pas pornographique, mais effectivement, pour l'époque, c'était assez choquant. Alors, la suite de l'histoire veut qu'en retour, chez Narcisse, qui avait a priori beaucoup d'humour, ait programmé Le soupir de Bernadette Soubirou, donc, qui est un film portant sur l'histoire d'une sainte catholique. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le curé étant un petit peu revanchard, Narcisse est dénoncé à la commandanture, sous prétexte qu'il était communiste et résistant, ce qui était vrai. Alors il n'a finalement pas été déporté puisque des amis à lui, notables du village, l'ont défendu en disant que, bah, regardez, il ne peut pas être communiste puisqu'il est chef d'entreprise. Effectivement. Alors, donc on voit déjà que, si vous voulez, c'est une salle qui a une histoire, hein, qui est déjà un petit peu un établissement marginal, entre guillemets, hein, dès le départ. Alors le cinéma s'arrête en 1981, mais continue de servir de salle de bal et de salle de théâtre. Donc les premiers concerts ont lieu en 1986, donc au Val d'Ajol. C'est Stéphanie, la petite fille de Narcisse, qui a alors 20 ans et qui en avait marre des discothèques et qui se dit ben voilà pourquoi on n'utiliserait pas cette salle-là pour faire de la musique qu'on aime. Donc ils font venir au départ des musiciens locaux. Et puis le premier gros concert, ce sont les Chérifs, donc le 25 février 1990. Et là, donc, ce sont 350 personnes qui viennent. Donc c'est le premier gros concert, puisqu'avant, c'était à peu près 30 personnes par concert. Alors depuis, le style musical a peu varié, donc la ligne de programmation est restée globalement la même. Et les groupes sont d'abord venus par le bouche à oreille. Donc, de copain en copain, donc Schulz, je cite un extrait d'entretien, Schulz de Parabellum nous a dit que San Severino passait par là. Les rats, les thugs, les cadavres et toutes ces bandes-là, c'est aussi passé le mot. Tout est toujours resté sur cette ligne, sans être fermé à d'autres groupes. Donc effectivement, aujourd'hui, la salle a été agrandie, elle comprend 550 places, et ce sont les arrière-petits-enfants de Narcisse, donc ils sont trois, qui gèrent l'entreprise suite au décès précoce de leur mère. Donc on est bien là sur une salle de musique globalement ancrée dans un espace local. Aujourd'hui, donc c'est le débit de boisson qui fait vivre la salle, hein, donc c'est un bar de village. Les concerts, ce sont 6 concerts par an. Donc ils se limitent volontairement à 6 concerts par an parce qu'ils veulent garder un caractère festif à l'événement. Donc l'idée, c'est pas de faire une salle avec beaucoup, beaucoup de concerts, hein, c'est vraiment de garder des soirées exceptionnelles. Donc c'est une association qui gère la salle. Et depuis que les arrière-petits-enfants ont repris l'entreprise, chez Narcisse s'est vu doté d'un logo, donc que vous voyez en haut à droite, hein, qui, pour la petite anecdote, n'a absolument rien à voir avec un look punk au départ, puisque, alors c'est pareil, je vous lis la citation, c'est beaucoup plus simple. Des gens aujourd'hui me disent « Narcisse, c'est une salle punk parce que sur le logo, c'est un punk ». Non, non, c'est pas du tout un punk. C'était en 1950, avant que tout mouvement punk n'arrive dans l'esprit des gens. Et en fait, l'histoire, c'est leur grand-père, donc le fils de Narcisse, qui, à ses 16 ans, pour fêter son brevet, va se faire une coupe iroquois et va immortaliser l'instant en allant se faire prendre en photo. Et donc, eux ont souhaité prendre finalement ce logo-là, parce que c'est ambivalent, évidemment, c'est pas un punk, mais il y a quand même cette image, cet esthétisme. Et puis, c'est le côté familial, le côté vraiment ancré dans l'histoire de la famille. Alors... pour passer un petit peu. Donc, aujourd'hui, les groupes qui sont... donc ça, c'est le slogan donc, qu'ils ont choisi en lien avec le logo. Donc, les groupes aujourd'hui qui passent chez Narcisse sont choisis en fonction de coups de cœur, donc je cite, et je cite toujours, parce qu'ils ont des choses à dire. Alors, à titre d'illustration, pour fêter les 120 ans de Narcisse cette année, les 6 concerts programmés comprenaient Le Bal des Enragés, No One is Innocent, Trust, Elmer Footbeat, Les Chérifs, Les Vampas, Tagada Jones et Les Ramoneurs de Menhir. Alors, cette programmation, en fait, invite aussi à questionner l'idée d'une scène punk. Donc, on entend le terme de scène ici au sens que lui donnent Jérôme Guibert et Fabien 1, comme voilà, mettre l'accent sur la territorialisation pardon, des interactions, sur les manières de faire hein, de différents acteurs culturels en lien avec un style de musique particulier. Il y a quand même une ambivalence puisque on est sur des pratiques musicales non conventionnelles, plutôt underground, mais les artistes programmés ne relèvent pas forcément d'une musique punk. L'un des membres les plus anciens de l'association m'a d'ailleurs dit « Ici, si on a fait 4-5 groupes punk, c'est le maximum. » Donc là, on est sur, ce questionnement-là, finalement. Il y a eu des groupes punk, il y a un ancrage dans le territoire qui fait que les... J'ai une autre citation d'entretien, mais je ne vais pas vous la lire parce que ce serait un peu long, mais des gens du village qui venaient voir qu'est-ce qui se passait chez Narcisse, c'est qui tous ces gens avec des punks, au début des années 90, c'était les punks qui venaient de Lyon, qui sont venus dans la salle, et voilà, la personne m'a dit, mais aujourd'hui, ces punks-là, ils sont tous morts. Il n'y a plus de punks, ils sont tous morts, parce qu'ils sont morts jeunes, et donc il n'y en a plus. Donc on est quand même sur cette ambivalence, donc même si aujourd'hui ce n'est plus la grande époque, comme ils le disent, hein, du punk chez Narcisse, la salle a toujours cette image d'être alternative underground. Et finalement, certainement l'identité punk des groupes aujourd'hui, elle relève moins d'une culture punk anglo-saxonne, et de la logique du no futur que d'une inscription finalement de la deuxième vague punk française, celle des années 80, celle des Berru, qui a davantage mis l'accent sur le contenu politique des messages diffusés et sur la critique du social. Alors, c'est vraiment cette idée que on va avoir donc des groupes qui ont des messages à faire passer et les organisateurs parlent plus facilement plutôt que de punk, ils vont parler de rock alternatif engagé. Donc là, moi, voilà, c'est une vraie réflexion. Est-ce que c'est du punk ou est-ce que c'est du rock alternatif engagé? Et finalement, avec cette idée derrière qu'au no futur du punk vient répondre le yes futur du rock alternatif engagé. C'est-à-dire, c'est pas sans futur, c'est pas on n'a pas d'avenir, c'est on a un avenir, mais il faut le prendre en main, il faut le faire changer. D'où, je suis désolée, j'y arrive seulement, d'où l'idée du do it yourself, comment on fait pour finalement avoir ce yes futur et donner une identité alternative à la salle qui ait un avenir et qui soit pas seulement il n'y a plus rien demain. Alors, donc j'arrive à mon deuxième point, donc comment finalement le do-it-yourself s'exprime chez Narcisse? Alors, il n'est pas exprimé, comme je vous l'ai dit, en tant que tel par les acteurs, c'est-à-dire que les propriétaires ne disent pas on fait du do-it-yourself, etc. Par contre, dans les manières de concevoir l'organisation des concerts, dans la gestion de la salle comme du bar, on trouve un ethos punk qui met l'accent sur l'authenticité, sur les innovations et finalement sur l'idée qu'on va avoir une certaine forme de socialisation quand on vient dans la salle qui va orienter des pratiques. Et donc du coup, finalement, c'est bien l'ethos que les organisateurs mettent en avant qui trouve une résonance avec les groupes invités et dans le public qui va donner une identité à la salle et qui va permettre de la construire. Donc la question, si vous voulez, c'est on est sur du do-it-yourself, mais pas du côté de la création artistique, mais du côté d'une démarcation que les acteurs de chez Narcisse veulent mettre en avant pour se donner une identité. Donc, si vous voulez, pour rester dans une perspective interactionniste, on est là sur des valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont mises en avant et comment, finalement, des conventions tacites vont faire que les acteurs qui viennent chez Narcisse vont trouver du sens et vont trouver résonance entre leurs idées et ce qui se passe là-bas. Alors, c'est d'abord une organisation indépendante, c'est-à-dire qu'ils ont une autonomie financière. Donc, ils rejettent le système bancaire. Donc, ils s'ancrent ainsi dans une culture punk qui revendique une indépendance vis-à-vis de l'économie capitaliste. Et donc, ils le disent, c'est-à-dire qu'ils font tout en financement interne. Et c'est pas qu'ils ont beaucoup de moyens, c'est simplement que c'est un choix délibéré de faire petit à petit et de pas demander aux banques. Il y a aussi effectivement cette idée qu'ils se positionnent en décalage vis-à-vis des autres salles de musique. Et ils sont notamment relativement critiques sur les salles de musique actuelles, hein, donc les SMAC. Et je vous ai mis là un extrait d'entretien où en gros il dit que les SMAC, c'est pas ce que eux font, que eux ils sont pas dans l'idée de faire beaucoup de concerts et de faire une musique business, donc c'est ce qu'il dit, mais vraiment dans cette idée d'être plus proche des groupes et de donner leur chance aussi aux petits groupes, hein, aux petits groupes même locaux. Souvent les premières parties des groupes sont des petits groupes locaux. Donc on retrouve ici une résistance propre au do-it-yourself qui vise à se positionner en rupture avec le capitalisme. Donc c'est Simon qui en avait parlé aussi dans son article. Si vous voulez, on trouve aussi cette idée que le public de chez Narcisse, il est différent, donc ça c'est ce que les organisateurs aiment à dire, il est différent du public des SMAC, plus authentique, entre guillemets. Hein. L'idée aussi, c'est que les organisateurs ont envie de rendre le public fier de venir chez Narcisse. On va chez Narcisse, mais on ne va pas chez Narcisse comme on va dans n'importe quelle salle. Et donc il y a vraiment cette idée d'avoir... c'est un petit peu les marchands tels que l'évoque Becker, de l'idée de rendre fiers finalement les visiteurs et les groupes évidemment. Alors, parallèlement à ça, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est, je vous l'ai dit, c'est avant tout un bistrot et il y a un fort ancrage dans la vie locale. Et notamment l'exemple de la foire aux andouilles, qui est une grande foire au départ médiévale du Val d'Ajol. Et qui fait venir 50 000 personnes sur un week-end, donc c'est quand même pas rien. Et à ce moment-là, la salle de spectacle, que vous voyez ici à gauche, est transformée et la fosse va servir de piste de danse pour la guinguette du village. Donc c'est quand même assez intéressant, puisque eux, donc les propriétaires, voient aussi cet ancrage dans la vie locale comme une manière de renouveler le public et de dire, ben voilà, nous on a beaucoup d'anciennes générations qui viennent au bistrot, mais on aimerait aussi faire venir les jeunes. Et comment on fait ? Ben, c'est pas seulement en diffusant de la musique punk qui va toucher, on va dire, des habitués, c'est aussi en ouvrant la salle en local pour faire découvrir la salle et petit à petit faire découvrir une musique alternative, si on peut dire ça comme ça. Alors, on voit très bien que, par contre, c'est pas détaché, c'est-à-dire que le bar est accolé à la salle, et dans le bar, il y a des affiches de groupe, il y a des photos de famille, donc on a ici, si vous voulez, à travers les images véhiculées, la mémoire du lieu, donc le bar, mais aussi son actualité. Et il y a vraiment cette idée de rappeler que il y a une certaine forme d'ethos punk chez Narcisse qui va sortir de la salle, qui n'est pas que dans la salle les soirs de concert, mais qui est aussi dans le bar et qui transparaît aussi pour les habitués du village. Donc il m'expliquait que la salle a encore du mal, ça fait 120 ans quand même, mais il y a encore des gens, les plus âgés du village, qui ne veulent pas venir chez Narcisse même pour boire un café le samedi matin parce que ça reste le cinéma du diable. Donc il y a vraiment cette volonté d'essayer de faire changer un petit peu les représentations. Alors ça prend du temps, mais c'est aussi en faisant ce lien salle bar et en montrant que le public qui vient aujourd'hui, c'est pas l'image qu'en ont encore les vieux entre guillemets du village, des punks avec des seringues, et que c'est pas forcément ça quoi. Alors le do it yourself, il va aussi se retrouver dans le fait que donc ils mettent l'accent sur la musique live et donc sur notamment les 6 soirs de concert dans l'année, et avec cette idée que ce qui est important, c'est aussi l'accueil. Alors le propriétaire le dit, on a beau faire un beau poster pour le concert, l'accueil avec le sourire, c'est quand même la chose la plus importante. Et c'est vraiment ce sur quoi ils mettent l'accent, c'est-à-dire une certaine forme de sociabilité qui soit une marque de fabrique de la salle. Donc on retrouve ici le désir de créer des solidarités, donc ponctuelles, parfois durables, avec cette idée du do-it-yourself. On fait soi-même, et alors la particularité de chez Narcisse, c'est que... ils font restauration les soirs de concert, mais ils font pas juste des sandwichs, ils font de la tartiflette avec du fromage local. Et ça, effectivement, c'est ce que le public va retenir. Bah oui, chez Narcisse, on est bien accueillis. En plus, la tartiflette est pas chère et c'est pas juste un sandwich comme ça. Alors, on a aussi une mise en avant de l'authenticité dans les discours, et notamment, on en parlait tout à l'heure, mais ils n'ont pas vraiment de système de sécurité, c'est-à-dire qu'ils ont des gens à l'entrée qui sont des gens du village, et le propriétaire dit, mais voilà, nous, je vous cite, « rien que de mettre des t-shirts avec marqué « sécurité » dessus, ce n'est pas possible, on n'est pas du tout pour ça. Je trouve que quand on arrive, un mec avec un t-shirt « sécurité » direct, ça crée un froid, ça crée une distance avec le public, et nous, on ne veut pas ça. » Alors, ils ont effectivement cette volonté de proximité avec le public. Et alors, on n'est pas fouillé à l'entrée de la salle, il n'y a pas de fouille, il n'y a rien du tout, il y a juste les gens qui sont là et qui ouvrent les portes. Ils ont quand même été obligés de mettre une affiche avec sac interdit depuis qu'il y a eu l'état d'urgence, parce qu'ils ont eu un coup de fil du préfet qui leur a dit « Attendez, vous ne pouvez quand même pas faire n'importe quoi. » Mais enfin, 9 fois sur 10, les gens rentrent avec des sacs et personne ne dit rien. Donc ça, c'est aussi pour une question d'authenticité qui se retrouve dans leur politique tarifaire. Donc tous leurs concerts sont en dessous de 20 euros et dans le fait que les concerts sont programmés toujours le dimanche soir. Et ça, c'est aussi une volonté chez eux, c'est-à-dire que ce n'est pas le samedi, etc., c'est le dimanche, parce que ça permet aussi aux groupes qui viennent dans l'Est de la France d'avoir un point de chute, on va dire, pour le dimanche. Et c'est traditionnel maintenant chez Narcisse, les concerts sont le dimanche. Alors on voit en fond une certaine volonté hédoniste, c'est-à-dire qu'eux, ils veulent aussi se faire plaisir, et ils le disent, c'est pas de la musique business, on veut que ça marche évidemment, mais c'est surtout se faire plaisir. Et donc ils arrivent à se faire plaisir, à programmer les groupes qu'ils ont envie, en compensant, si vous voulez, un petit peu avec le bar, hein, les deux sont interdépendants. Alors quand même, ils essayent de diversifier. Et ce message est toujours le même, c'est-à-dire de faire venir des groupes qui ont des choses à dire. Et là, ils ont fait venir Rachid Taha et ils envisagent de faire venir Joey Starr. Alors, on n'est plus dans de la culture punk. Par contre, on est toujours dans cette idée, on veut faire venir des gens, des musiciens qui ont des choses à dire. Alors, donc 6 concerts par an. On trouve là, dans ces 6 concerts, des moments durant lesquels, finalement, le public va construire la salle narcissienne. Qu'est-ce que c'est que la salle narcissienne ? Ben, c'est la salle telle que le public l'a construit. Et donc ils sont très à l'écoute de ce que le public dit. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup cette idée que pour les groupes, venir chez Narcisse, ça se mérite. Donc c'est un petit peu ce qui transpire derrière, vu qu'il n'y a que 6 concerts par an, donc c'est quand même plutôt sélectif. Et il y a aussi cette réflexion de la part des spectateurs qu'il y a un certain public chez Narcisse, et notamment à la fin d'un groupe qui avait été... Enfin, l'accueil avait été plutôt mitigé par le public parce que le groupe avait été jugé hautain. Les gens ont dit, je cite, « Le public n'était pas le même que d'habitude, on n'était pas chez nous. » Et suite à ça, le groupe en question ne méritait pas de venir jouer ici parce que venir jouer chez Narcisse, ça se mérite. Donc il y a vraiment cette idée que finalement, on va avoir chez Narcisse un public particulier qui construit sa salle et ils essaient de jouer un petit peu avec ça. Ils ont un fond d'habitués, on va dire ça comme ça, qui construit l'identité de la salle, qui dit ce que c'est chez Narcisse. Et on le voit aussi dans les moments de régulation au milieu du pogo, ceux qui sont pas, qui respectent pas les règles tacite, hein, mise en place, sont rappelés à l'ordre. Alors, on est évidemment, je pense, dans ce que Fabien Hein parle d'entrepreneuriat punk, je pense qu'on est un petit peu dans cette logique-là, puisqu'on a une idéologie anticapitaliste qui s'esquisse en arrière-plan, mais on a aussi un ancrage dans un contexte très local, très concret. C'est aussi, chez Narcisse, les soirs de concert, une occasion de créer des emplois. Et c'est important pour eux que ces emplois reviennent aux jeunes du village, qui sont là, qui font vivre la salle, etc. Donc on a un petit peu, il y a une critique du marché, du système capitaliste, clairement, dans le discours des propriétaires, mais ils ne sont pas détachés de l'économie de marché. Hein, donc on est vraiment on oscille entre ces deux points de vue. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est la question du nos futurs, puisque ça m'a quand même interrogée sur le rapport à la mort qu'il y a chez Narcisse, hein, donc c'était pompe funèbre, etc. Ça m'invite à questionner le rapport au temps qui est en jeu dans la construction de la salle. Et finalement, il y a vraiment une dimension donc, transgénérationnelle très forte qui est présente dans la transmission de l'entreprise, hein, donc des arrière-grands-parents ou aux arrière-petits-enfants, mais aussi dans les conceptions de la gestion, c'est-à-dire que ben voilà, hein, je vous ai présenté le cinéma, Narcisse, et aujourd'hui, on est toujours dans cette logique-là. Et finalement... On est dans cette logique do it yourself, puisqu'il ne s'agit pas simplement de reprendre l'entreprise pour les arrière-petits-enfants, mais il faut aussi la poursuivre et l'améliorer. Donc, il faut dynamiser le lieu, et finalement, donc je vous l'ai dit, il y a eu des travaux, etc. Et la dimension punk de la salle, même si elle n'est pas revendiquée en tant que telle, avec ces mots-là dans le discours tenu, ce qui la positionne dans la continuité d'un ethos punk, c'est son âme, je cite, hein, c'est l'un des propriétaires qui dit ça, son âme. Autrement dit, les conventions et les valeurs qui la soutiennent, c'est-à-dire comment cette salle est organisée. Et loin du no futur, finalement, du punk, se retrouvent les actions entreprises aujourd'hui pour enrichir l'entreprise familiale alternative. Je vous lis juste un extrait d'entretien entre Martin, donc qui est l'un des premiers bénévoles de l'association, et l'un des propriétaires actuels. Quand on parle de la salle, on dit toujours que c'est une salle punk. Elle a une âme punk. Je pense que c'est aussi un peu sa marque de fabrique. Oui, mais on ne peut pas prétendre être complètement punk parce que sans avenir... Non, mais le punk sans avenir, c'était les années 70. Maintenant, voilà, c'est différent. Donc, si vous voulez, l'âme punk de chez Narcisse, elle se caractérise autant par son passé que par l'avenir tel qu'il est envisagé aujourd'hui par les différents acteurs. Et certains musiciens deviennent des amis de la famille, et il y a quand même cette idée d'entraide et de soutien qui sont très fortes chez Narcisse. Et chez Narcisse se veut aussi un lieu de mémoire. C'est notamment le cas avec les hommages qui sont réalisés. Donc, l'un des deux hommages à Schulz, donc chanteur de Parabellum qui est décédé en 2014, il y a eu deux hommages. Donc, il y en a eu un à l'Alhambra à Paris et le deuxième a été fait chez Narcisse. C'était complet en 3 semaines. Et donc, il y a vraiment cette idée que chez Narcisse, ça va être un lieu qui a un ancrage mémoriel très fort. Et cet hommage à Schulz, il y avait déjà eu une édition... pas pour Schulz, mais pour la mère des actuels propriétaires donc, qui est décédée, il y avait déjà eu un hommage fait par le bal des enragés 2 ans plus tôt. Donc il y a vraiment cette idée de l'hommage, de la mémoire, et c'est assez intéressant parce qu'on a effectivement quand même une salle qui a un poids historique, qui a un lien avec la mort, donc les pompes funèbres, des décès précoces, des hommages de personnes qui sont parties, et... Il y a aussi dans les discours des propriétaires une angoisse vis-à-vis de l'avenir, de se dire mais si ça se trouve on va être les derniers, on va être ceux qui vont arrêter l'entreprise familiale, qui vont arrêter l'âme punk de chez Narcisse. Donc voilà, ça les travaille, on va dire, de se dire mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire de l'avenir. Donc on est vraiment dans cette idée que les soirs de concert, on assiste à des rencontres focalisées, hein, donc qui permettent de transmettre un certain ethos punk, qui sont aussi des manières, je pense, de rappeler que on est dans l'immédiateté, on est dans le temps présent, donc on retrouve cet ethos punk de l'instant présent, de la musique du moment actuel et de la contemporanéité. Donc on a un poids du passé, une angoisse du futur qui donne quelque chose au présent, et ce quelque chose, ce sont en grande partie les concerts. Donc en conclusion, l'idéologie du faire soi-même chez Narcisse s'exprime dans les actions présentes, donc dans la manière de gérer la salle, dans la manière d'accueillir le public les soirs de concert, mais toujours en lien avec le passé. Donc le do-it-yourself repose en grande partie ici sur une mémoire familiale, et l'indépendance économique de la salle, la liberté dans le choix des groupes invités, puisqu'ils ont ils prennent cette liberté-là, hein, ils le disent, nous on invite des groupes pour se faire plaisir, on n'invite pas des groupes pour remplir la salle, et s'il y a un concert qui n'est pas complet, tant pis, on compensera soit avec le bar, soit avec le concert d'après. L'inscription dans un paysage local aussi sont autant le reflet de conventions actuelles de la salle que les conséquences de l'histoire de ce lieu culturel alternatif. Donc il y a vraiment ce poids du passé. Donc on a un ethos punk qui se construit au jour le jour, et finalement les soirs de concert, on a un monde narcissien, entre guillemets, qui est ponctuellement créé, donc parce que les acteurs en présence acceptent les règles du jeu et viennent chercher pas seulement les concerts et pas seulement les musiciens, mais aussi l'ambiance, entre guillemets, l'âme de chez Narcisse. Et donc le do-it-yourself ici, c'est plus seulement une manière de faire, c'est plus seulement un régime d'action, c'est aussi, et en filigrane, une façon de transmettre des valeurs de proximité, organisateurs publics, mais aussi musiciens publics, puisque souvent les musiciens finissent avec le public, hein, dans la salle, ou pendant ou après. Donc proximité, authenticité, et sûrement aussi un peu d'épicurisme du moment présent. C'est vraiment cette idée de vivre l'instant présent, et c'est pour ça qu'ils veulent que ça reste exceptionnel, c'est parce que c'est un moment présent, c'est un moment très fort, qui doit rester relativement rare, entre guillemets. Donc l'accent est mis sur le plaisir de l'instant, sur le fun, sur l'euphorie du moment présent, et on a, si vous voulez, je pense, et je terminerai là-dessus, une articulation entre passé, futur, présent, qui s'articule autour de la logique du do-it-yourself pour donner naissance à des rencontres focalisées, à des moments précis, qui sont basées sur une musique alternative engagée, mais aussi festive. Ben là, je vous remercie.
Merci Audrey pour ton exposé. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être moi juste une demande un petit peu de précision. Quand tu parles de Do It Yourself à partir de cette salle-là, c'est toi finalement qui interprète le Do It Yourself ou c'est eux qui s'en revendiquent ?
Non, c'est moi qui l'interprète.
D'accord.
C'est moi qui l'interprète par rapport à ce qu'ils font.
D'accord, ok.
Bonjour, merci pour votre intervention. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez, la notion d'éthos punk, parce que j'imagine que c'est un vocabulaire de sociologue un petit peu, mais entre autres, voilà. Est-ce que vous pouvez nous préciser cette notion-là, s'il vous plaît ?
Oui, l'idée d'éthos, c'est, ça va orienter des pratiques. En fait, c'est l'idée d'aller, de donner des valeurs, finalement, qui vont orienter des pratiques et des manières de faire. Et donc l'éthos punk reposerait, après c'est une hypothèse, hein, sur les valeurs, donc en partie du do-it-yourself, authenticité, innovation, faire par soi-même, etc.
Bonjour, merci beaucoup. Peut-être une petite précision sur les 6 représentations, parce que vous les avez présentées comme étant un parti pris, mais je pense que c'est aussi pour des raisons administratives, puisqu'ils sont sous une forme associative.
Alors, non, le bar, c'est une entreprise et c'est l'association qui gère les soirs de concert. Mais techniquement, ce sont les mêmes gens, en fait.
Non, alors parce que du point de vue de la réglementation des associations, à partir du moment où on fait plus de 6 représentations par an, il y a une licence d'entrepreneur de spectacle qui est demandée et une imposition à la TVA. Donc ça peut aussi faire partie de ce parti préaffiché, mais qui, en fait, cache... des raisons financières.
Merci. Voilà. Mais il en avait parlé effectivement dans l'entretien. Il m'avait dit, mais nous, on ne veut pas être entrepreneur de spectacle parce qu'on veut que ça reste un loisir, un plaisir. Donc on ne veut pas, en gros, se prendre la tête. Voilà. Mais oui, mais merci.
Moi, je voulais juste savoir, je n'ai pas très bien compris où c'était localisé.
Pardon, oui, j'aurais dû mettre une carte. C'est dans les Vosges.
Oui, mais où en fait dans les...
C'est 88. C'est avant Épinal.
D'accord.
Une demi-heure d'Épinal, une heure de Nancy, au sud de Nancy.
Et alors moi, en fait, c'est pour ça la question que je voulais poser, c'était savoir si justement c'était à proximité ou non d'une métropole. Donc non, parce qu'Épinal, c'est quand même une petite ville j'y suis allé il n'y a pas longtemps, un peu triste aussi quand même. Beaucoup de chômage, des industrialisations, des usines automobiles, etc., et du textile. Oui. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait beaucoup de mouvements de population qui allaient dans cette salle de concert, qui venaient des villes aux alentours. Ça venait des fois de plus loin, je ne sais pas, de Nancy, de Metz, de...
Je n'ai pas les chiffres, hein, parce que comme j'ai dit, la recherche. Mais il y a des gens qui viennent même de Paris, certains, pas toujours, mais sinon, ça brasse une population relativement locale.
D'accord. Et du coup, est-ce que tu penses, par rapport au travail que tu es en train de faire, que le fait aussi que ça soit justement dans une zone un petit peu où il ne doit pas y avoir grand-chose qui se passe, que ça explique aussi le succès de cette salle où,
Je ne sais pas, on en parlait avec Laurent pendant midi, qu'il y a une salle à Nancy, donc chez Paulette. Oui, à Toul. Pardon, qui a priori serait dans le même état d'esprit. Moi, je ne la connais pas, hein, donc on en parle à midi. Enfin, je la connais de nom, mais pas, je ne suis jamais allée, donc je ne sais pas. Après, il y a des SMAC. En fait, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il y a des SMAC alentour. Il y en a une à Épinal, il y en a une à Besançon. Et depuis que la SMAC d'Épinal, notamment, a ouvert, eux, ils gagnent des visiteurs. Après, il n'y a peut-être pas de lien de cause à effet. Hein, mais...
Juste une question. Tu disais qu'il n'y avait que 6 concerts par an, c'est ça ?
Oui.
Donc j'aurais juste aimé savoir si sur Épinal, il y avait d'autres organisations qui faisaient des concerts de punk à l'année ou si c'est vraiment le seul lieu où il se passe des concerts punk.
Je ne sais pas quelle est la programmation de la SMAC. J'imagine que c'est à peu près le seul lieu dans le coin. En fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans... Il y a d'autres concerts Épinal ? Oui. Ils sont en tension, on va dire.
Et en dehors de la SMAC, il n'y a pas de...
Il n'y a pas grand-chose. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, dans les années 80, donc quand ils ont commencé d'ouvrir la salle de concert, il y avait une salle punk à Épinal, ou dans un village alentour, je ne sais plus le nom exact du village. Il y avait une salle punk, très bien identifiée punk, qui a dû fermer. Et la personne qui faisait vivre cette salle punk s'est tournée un petit peu naturellement vers chez Narcisse. Et du coup, le public de cette salle s'est déplacé aussi chez Narcisse. Donc il y a eu ce jeu aussi de mouvement de public d'une salle à l'autre. Mais aujourd'hui, je ne sais pas.
Oui, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être souligné, c'est qu'en fonction des fonctionnements de certaines structures ou de certains organismes comme des labels, ou, etc., en fonction des financements, enfin en fonction du fonctionnement général justement, ça peut créer des problèmes de cohabitation sur la scène. Et ça, c'est quelque chose qui a... Parce que ça repose aussi encore plus le débat sur qu'est-ce qui est do it yourself et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on peut citer aussi l'exemple du Supersonic qui vient d'ouvrir à Paris, qui est une salle en fait qui est en deux parties, qui est privatisée en haut pour les entreprises, pour les comités d'entreprise. Et s'il y a 4 privatisations dans le mois, ça permet de payer le budget pour la salle de concert, du coup, de payer les artistes avec des cachets fixes, de pouvoir déclarer aussi les techniciens qui travaillent dans cette salle-là, et du coup, de ne pas faire aussi payer les entrées pour les concerts. Du coup, forcément, les orgas à côté, les salles de concert, ça pose des problèmes, et ils ne se font pas que des potes. Et pourtant, à la base, tous ceux qui travaillent là-dedans ont commencé dans le do-it-yourself et se revendiquent toujours du do-it-yourself d'une certaine façon.
Du coup, on va enchaîner. Merci Audrey. Merci. À la limite, on pourra refaire un tour de questions après, à partir des 3 interventions.